L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Bienvenue à tous. On va juste commencer en priant ensemble. Seigneur, je te remercie pour ces temps qu'on passe dans ta parole. Je prie afin que les cœurs s'ouvrent ce matin, s'ouvrent à ta parole transformatrice, à ta parole qui a un effet puissant dans nos vies. Je prie afin que leurs cœurs s'ouvrent pour recevoir ta solution, recevoir tes plans, tes voix qui sont au-dessus de nos voix. Oh merci Seigneur parce que tu as un plan pour nous en tant que couple. Tu as des destinées pour les couples et je prie afin que chaque personne ici puisse le saisir, que chaque couple puisse repartir avec un objectif, ton objectif pour leur vie. Merci parce que tu vas faire des choses extraordinaires ce matin. Tu vas réparer, tu vas consoler, tu vas consolider, tu vas fortifier, tu vas réconcilier. Parce que tu es le Dieu de la réconciliation. Et je crois que ceux qui sont venus diviser ici ce matin repartiront comme un à cause de ta parole, à cause de ce que toi tu as à dire, à cause de ton conseil divin. Merci Seigneur pour ta présence qui est ici, ta présence qui brise les liens, ta présence Seigneur qui brise les liens et qui console, ta présence qui guérit. Oh, je m'attends à de grandes choses ce matin, à cause de toi, parce que tu es Dieu. Amen. Le couple, c'est souvent un message, on se dit « Ah, oh, c'est un message sur les couples, ça va être... Oh, c'est tout le temps la même chose sur les couples, c'est pas très important, je suis pas en couple, ça m'intéresse pas. » Mais sauf que le couple, si vous regardez l'amour en général, c'est quelque chose qui attire soit une grande joie dans la vie d'une personne ou alors une grande tristesse. La plupart des dépressions sont causées à cause des problèmes de couple, des problèmes de mariage, tout ce genre de choses. Donc c'est un sujet qui est important et on doit en parler dans l'église. Parce que si on n'en parle pas dans l'église et que vous avez des problèmes, que vous ne savez pas comment avancer en tant que couple ou comment construire votre couple quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous irez chercher un conseil ailleurs, un conseil qui n'est pas de Dieu, un conseil qui n'est pas saint, un conseil qui n'est pas parfait, parce que seul le conseil de Dieu est parfait. Nous sommes des êtres spirituels et nous avons besoin d'avoir des conseils spirituels. Nous avons besoin d'avoir le conseil de Dieu pour chaque domaine de notre vie et le couple est un domaine très important. C'est quelque chose à ne pas négliger dans notre vie. Et donc, c'est pour ça que je vous demande d'ouvrir vos cœurs. Et puis, je voudrais juste déjà briser quelque chose avant de commencer. Oui, Jérémy et moi, on est un peu plus jeunes que la moyenne, la grande moyenne. On est beaucoup plus jeunes que certains d'entre vous. Vous avez 3-4 fois notre parcours. Non, pas 4 fois, c'est pas possible ça. 2-3 fois notre parcours. Mais on vient ici avec la parole de Dieu. On vient pas avec notre propre intelligence, parce que là, vous seriez vraiment mal barré, comme on dit en français. Mais on vient avec la parole de Dieu, avec le message que Dieu a mis dans notre cœur. Et je crois que peu importe le canal, Dieu est capable de l'utiliser pour vous bénir, pour vous enseigner et pour opérer une transformation dans votre vie. Donc, si vous ne nous aimez pas, oubliez juste que c'est nous. Si vous nous trouvez trop jeunes, imaginez juste qu'on est plus vieux et qu'on fait plus jeune. Mais dans tous les cas, c'est Dieu au travers de nous. Vraiment, voyez juste Dieu, voyez juste le conseil de Dieu. Et quand on préparait ce message par rapport au couple, ce qui nous est venu à tous les deux, plus ou moins en même temps, c'est que on traite souvent le couple, on traite le problème du couple, les problèmes du couple. Mais quand le couple va mal, c'est une conséquence de plein de choses. C'est une conséquence autre que le couple. Souvent, quand un couple va mal, vous pouvez regarder si votre couple va mal. C'est souvent des problèmes que vous avez en dehors de votre couple. Vous sentez tout le temps incompris. Vous vous sentez incompris au travail. Vous vous sentez incompris dans votre famille. Vous vous sentez incompris partout. C'est pas votre couple le problème. Le couple, ça reflète juste une source qui n'a pas été traitée, quelque chose où Dieu n'a pas pu encore intervenir. Donc, oui, on va parler du couple, mais on veut vraiment revenir aux bases, à la fondation. Votre couple a des défis, mais juste essayer de traiter votre couple, c'est pas ça qui va apporter une solution. C'est vraiment être en train d'essayer de rafistoler, de bricoler un peu partout dans votre maison. Vous essayez de réparer une vitre qui est cassée alors que votre maison elle est complètement de travers. C'est juste en train de bricoler là, de cacher, de juste pour pas que ça pouh, ça s'effondre. Mais ça sert à rien. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie investie juste pour que ça tienne, juste pour maintenir. Mais Dieu a quelque chose de bien plus puissant pour vous que de maintenir. Dieu a une vie plus grande que de survivre. Dieu vous donne la vie en abondance, pas une survie limite où c'est tout le temps difficile, on se demande quand ça va péter. Et dans le couple, c'est ça, quelquefois on traite juste des petites choses, mais on veut aller avec vous à la base. Et vous pouvez aller avec moi dans 1 Corinthiens 7, 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Alors, attendez, j'ai une autre version pour vous. Verset 32. Je voudrais que vous n'ayez pas de soucis. Celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur, mais celui qui est marié s'occupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Et ainsi, il est partagé. La femme qui n'est pas mariée ou la jeune fille s'occupe des affaires du Seigneur. Elle cherche à lui appartenir totalement en lui donnant toute leur personne. Mais la femme mariée s'occupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. Et ce que je voudrais que vous reteniez, c'était « il est partagé ». Il est partagé. Et souvent, oui, on va parler du couple, mais un couple sans Dieu, sans une fondation radicale, entière et profonde en Dieu, va être un couple constamment partagé. Vous allez être une personne partagée et c'est là, la plupart du temps, quasiment tout le temps, que la fissure est. Ça va mal regarder à vos fondations. Il y a une fondation qui a été mauvaise, une fissure entre vous et Dieu, une fissure entre votre couple et Dieu. Vous êtes partagé, vous avez votre couple, il faut qu'on développe notre couple, il faut qu'on développe notre vie familiale, il faut qu'on soit heureux, qu'on achète une maison, qu'on réserve des vacances, etc. Vous poursuivez le bonheur de votre couple, la réussite de votre couple, mais Dieu nous a jamais demandé, ça n'a jamais été le but de Dieu, qu'on soit un couple heureux, qu'on soit un couple béni. Ça fait partie des fruits de notre relation avec lui. Ça fait partie des fruits de notre relation avec Dieu, de notre vie avec Dieu, parce que Dieu veut que nous ayons une vie bénie. C'est certain que Dieu veut qu'on ait un couple béni aussi. Donc c'est pour ça qu'on veut retourner aux fondations et que vous puissiez comprendre qu'un couple sans Dieu, un couple qui n'est pas fondé en Dieu, sera un couple partagé, un couple qui va vivre des défis quasiment pas inutile, mais qui pourrait être évité parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas fondés en Dieu. Donc, je vais laisser la place à Jérémy. Et je vais reprendre ma place avant de lui laisser la place. C'est que, oui, il est un peu plus organisé, structuré que moi. Il connaît mieux ma partie.
C'est ça, le couple, hein.
Qui c'est qui applaudit, là? C'est que la Bible dit de ne pas être sage à nos propres yeux. Mais de se confier dans la sagesse de Dieu. Et c'est quelque chose qui va contre toutes les tendances actuelles, contre tout ce qu'on peut dire sur le couple, comment un couple doit être heureux, toutes les techniques, les 20 techniques pour rendre votre mari fou de vous ou votre femme complètement folle de vous. Mais ce que dit la Bible est complètement contraire. C'est de se détourner de soi-même, se détourner de votre couple pour vous tourner vers Dieu pour avoir une solution. Et c'est quelque chose qui va contre nos raisonnements, contre nos propres désirs et contre notre chair, parce que là où on voit un problème, c'est là qu'on veut aller directement attaquer. Mais aujourd'hui, si on vous dit ton couple a des défis, ok, mais on va juste se détourner du couple quelques instants pour retourner à la source. Parce que quand cette source-là va être forte, ton couple va resplendir d'un seul coup. Ton couple va être épanoui. Mais il faut savoir recevoir le conseil de Dieu, recevoir son intelligence divine, accepter d'être renouvelé, accepter de penser différemment comme Dieu pense. Et ses voix sont au-dessus de nos voix. Notre intelligence n'arrive pas à contenir toutes ces choses. notre intelligence ne peut pas imaginer comment aimer parfaitement notre conjoint, c'est impossible humainement parlant. Et c'est pour ça que les magazines essayent, la télé, tout ce que vous voyez, les médias essayent de nous donner des choses, mais ce sont des moyens purement humains, pensés par les hommes, qui ont des fruits humains, des conséquences humaines. Mais je suis sûre que vous tous ici, vous voulez avoir un couple surnaturel, avec une destinée surnaturelle, parce que vous servez un Dieu surnaturel. Mais pour ça, vous avez besoin d'une intelligence. Nous avons besoin d'une intelligence surnaturelle, d'une intelligence renouvelée. Donc là, c'est vraiment à toi.
Gloire à Dieu. Quand je regarde l'Église avec un grand E un peu partout dans le monde, ou là où je peux aller, ou quand je regarde des vidéos sur Internet qui nous montrent différentes églises et différents mouvements, on réalise qu'il y a beaucoup de chrétiens un peu partout sur toute la terre, mais il y a très peu de disciples. Et vous savez ce que Jésus a dit ? Il a dit que le disciple, il faisait comme son maître. Et il y a beaucoup de gens qui vont à l'église et en fait, ils rajoutent l'église dans leur vie. Ils rajoutent Dieu dans leur vie, ils rajoutent la Bible dans leur vie. Et beaucoup de couples chrétiens, en fait, ils rajoutent Dieu dans leur vie. Et ça, c'est un grand problème. Parce que si vous rajoutez Dieu dans votre vie, vous allez aussi pouvoir rajouter tout un tas de choses. Et en fait, on ne rajoute pas Dieu. C'est Dieu qui est à la base de notre couple. C'est pas je rajoute Dieu dans mon couple. Je rajoute, tiens, si je lis un truc dans un magazine, je vais rajouter cette chose-là. Si on me donne un bon conseil, je vais rajouter cette chose-là. Si je lis quelque chose dans la Bible, je rajoute cette chose-là. Non, la parole de Dieu est notre fondation. Et je ne sais pas quelle est votre situation de couple ou quelle sera votre situation, mais comme a dit Annabelle, tout est possible. À partir du moment où vous bâtissez votre vie sur la parole de Dieu, il n'y a absolument rien d'impossible. Et si vous regardez à nous, comme elle l'a dit, vous allez être déçus. Si vous regardez aux hommes, vous serez déçus. Mais si vous bâtissez votre vie sur la parole de Dieu, vous ne serez jamais déçus. Parce que la Bible déclare que Dieu, il ne déçoit jamais. Il n'est pas, parfois, vous buvez quelque chose dans un robinet et l'eau n'est pas bonne. Vous allez dans certaines villes, mais ça ne se passe jamais avec Dieu. L'eau qui sort de la bouche de Dieu est toujours bonne. Et ce que Dieu donne est toujours bonne. Et dans Matthieu, si vous pouvez aller avec moi, dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 31, Matthieu 6, 31, il est dit, ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Au verset 33, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Jésus dit, ne vous inquiétez pas comme les païens. Et beaucoup de couples chrétiens, ils vivent comme les païens. Donc, ils sont animés par l'esprit du monde. Ils sont animés par des convoitises humaines. Et ils bâtissent leur vie sur toutes ces choses-là. Ils regardent, si vous regardez votre vie, peut-être, c'est peut-être votre cas dans votre couple, en fait, vous voyez qu'il y a vos enfants, il y a le travail, il y a l'église, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Et ça, c'est un problème. Tout ce que vous devriez voir, c'est Dieu. Et le travail vient par-dessus. Les enfants viennent par-dessus. Votre femme, même votre mari, vient par-dessus. Mais ce que vous devez voir dans chacune de ces choses, chaque domaine de votre vie, c'est Dieu. Jésus dira, ne vous inquiétez pas comme les païens. Ne recherchez pas les choses que les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, recherchent. Et en tant que couple chrétien, on cherche parfois des conseils ici et là. On regarde nos parents peut-être, on regarde des gens, des amis à nous qui ne sont pas forcément chrétiens. Et on se trompe complètement. Mais si on regarde à la parole de Dieu, la Bible dit qu'on est éclairé de joie. Ça veut dire que l'éclairage de la parole de Dieu, la lumière de la parole de Dieu, vient répondre à nos situations. Ce qui va transformer votre couple aujourd'hui, si vous avez envie de transformation, même si vous êtes bien, vous pouvez avoir envie d'aller beaucoup plus loin dans votre couple, ça ne va pas être un message, ça ne va pas être un témoignage, ça va être la parole de Dieu. La parole de Dieu dans votre bouche, la parole de Dieu qui descend dans votre cœur, est celle que vous croyez à la puissance, une puissance extraordinaire de transformer votre couple. Donc Jésus dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. La fondation de notre couple, ce n'est pas notre couple en lui-même. La fondation de notre couple, ce n'est même pas d'aimer mon conjoint. Mais la fondation de notre couple, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu. Si vous voulez réussir avec Jésus-Christ, ne soyez pas comme beaucoup de chrétiens qui en fait, ils rajoutent Dieu. Ils viennent à l'église, ils lisent leur Bible, ils prient, mais ils rajoutent toutes ces choses dans leur vie. Le disciple est mort à lui-même. Le disciple est mort, c'est quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même. C'est quelqu'un qui ne vit plus pour ses propres passions. C'est quelqu'un qui vit juste pour le royaume de Dieu. Oui, c'est quelqu'un de radical. C'est quelqu'un d'extrême. C'est quelqu'un qui dit, je suis en couple, mais mon couple servira à une seule chose, la gloire de Dieu. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais les chrétiens cherchent tout ce qui vous sera donné par-dessus. Et les gens cherchent tout ce qui vous sera donné par-dessus. Le vêtement, toutes ces choses-là à manger, tout ce dont on a besoin. Même comment ça doit se passer dans mon couple, comment je peux sortir de cette difficulté. Jésus a dit, ça c'est toutes les choses qui vous seront données par-dessus. Mais si la fondation de votre couple, c'est le royaume de Dieu, Jésus l'a très clairement dit. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Alors que vous cherchez le royaume de Dieu, l'intelligence divine viendra en vous. La puissance divine viendra en vous. Il nous a dit qu'il nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je ne peux pas aimer ma femme avec mon amour. C'est impossible. C'est impossible. Ce ne sera jamais suffisant. Je ferai des choses mauvaises, obligatoirement. Mais si je l'aime avec l'amour divin, tout devient possible. Si vous aimez avec l'amour divin, si vous aimez avec les principes divins, tout devient possible. Et il y a un autre passage qu'on peut lire ensemble, dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 31. Il est dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Comment imaginer que quelque chose d'aussi important que mon couple, je peux le vivre sans avoir comme motivation première de voir la gloire de Dieu? Comment je pourrais voir la gloire de Dieu dans ce que je mange, dans ce que je bois, sans premièrement vouloir la gloire de Dieu dans mon couple? Il y a beaucoup de gens qui prient, tout le monde prie, même ceux qui ne croient pas en Dieu prient un jour ou l'autre. On prie pour manger, on prie pour toutes sortes de choses. On prie pour la dîme, on prie pour les annonces, on prie pour ceci, on prie pour cela. Et on oublie que notre couple doit servir à la gloire de Dieu. Ma vie, et si vous êtes célibataire, ça doit être votre vision. La personne que vous choisirez, pourquoi vous allez la choisir? Parce que vous savez qu'avec cette personne, vous allez pouvoir voir la gloire de Dieu ensemble. Quand j'ai rencontré Annabelle, je lui ai dit très clairement, et ce n'est pas parce que j'étais appelé au ministère, je ne suis même pas encore dans le ministère à temps plein. On a passé 10 ans depuis. Et je lui ai dit, Annabelle, si tu me suis, si on se marie ensemble, sache que je vais servir Dieu. Si Dieu me dit d'aller en Chine, j'irai en Chine. Si Dieu me dit de faire cela, j'irai. Et elle a choisi, elle a dit oui. Et j'ai vu en elle quelqu'un qui avait le cœur de Dieu. Et si vous êtes célibataire, choisissez quelqu'un qui a le cœur de Dieu, qui est extrême pour Dieu. Sinon, vous serez déçus. Si vous choisissez quelqu'un qui est là, vous allez tomber très très bas. Mais si vous choisissez quelqu'un qui est là, il va vous amener plus près, plus proche du cœur de Dieu. Et c'est toujours proche du cœur de Dieu qu'il y a la solution. La Bible nous dit encore dans Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Tu ne peux pas à la fois vivre juste pour ton couple et à la fois vivre juste pour Dieu. C'est indissociable. Tu ne peux pas. Jésus dit très clairement ici, on ne peut pas servir de maître, parce qu'en fait tu vas mépriser l'autre. Et il y a beaucoup de couples quand ils ont des difficultés, ou même parfois quand tout va bien, ils vivent pour eux. C'est leur projet, c'est leur plan, on veut avoir des enfants, on veut acheter une maison, on veut faire ceci, on veut faire cela. Et après il dit, Seigneur, bénis nos plans, bénis mes projets. Et c'est impossible, parce que ça s'appelle mépriser Dieu. On ne demande pas à Dieu de bénir nos projets. Parce que dans ce cas-là, je suis en train de mépriser Dieu. Non, c'est Seigneur, je veux tes projets. Beaucoup de gens bâtissent leur vie. Ils disent, voilà, j'ai une offre d'emploi ici. Et les deux se mettent ensemble. Et ils choisissent de déménager quelque part. Mais sans que Dieu leur ait parlé. Et ils choisissent de faire ceci et cela sans que Dieu leur ait parlé. Alors que nous sommes chrétiens. Mais non seulement chrétiens. Les chrétiens n'amènent pas forcément la gloire de Dieu. Les chrétiens ne vivent pas forcément comme Dieu. C'est pour ça que le monde est déçu et ils disent, mais regarde ce chrétien, regarde ce chrétien, regarde ce chrétien. Il est chrétien, il a la même Bible que toi, mais pourtant, regarde, il est menteur, il fait ceci, il fait cela. Mais c'est parce qu'il n'est pas disciple. Si vous voulez être épanoui dans votre vie chrétienne et dans votre couple, devenez des disciples. Devenez des disciples. Mort à vous-même et vivez seulement pour Dieu. Nous lisons dans Genèse au chapitre 2, 24, qu'est-ce qu'a dit Dieu? L'homme et la femme, ensemble, ils quitteront leurs parents et ils deviendront une seule chair. Beaucoup de couples, ils vivent divisés.
Et c'est impossible de vivre divisé en étant unis. On devient une seule chair. Voilà pourquoi lorsqu'Annabelle était enceinte et qu'elle a accouché, je disais « quand on a accouché ». Parce que je m'associe, obligatoirement. Éden n'est pas son enfant. Éden n'est pas mon enfant. Elle est notre enfant. Et beaucoup de gens, dans leur pensée, c'est déjà la division. C'est moi et c'est elle. C'est mon compte bancaire et c'est son compte bancaire. Mais c'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est anti-biblique. Oui, je vous le dis et je vous le redis. C'est anti-biblique. Pourquoi Dieu dit une seule chair. Une seule chair. Je pense que la plupart d'entre vous, à moins que vous soyez très riches et que vous ayez des comptes en Suisse, vous avez un seul compte bancaire. Personnellement, je n'ai pas besoin d'avoir un compte à la CIBC, un compte ici, un compte ici, un compte ici. J'ai un compte. Mais on est une seule chair. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres pour montrer comment les gens sont divisés dans leur tête, divisés aussi dans leur cœur, bien sûr. Parce que ce que tu vas manifester à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Beaucoup de gens sont divisés à l'extérieur parce que d'abord, ils sont divisés à l'intérieur dans leur pensée, dans leur mentalité. Une seule chair, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est plus ses plans et c'est plus mes plans, c'est nos plans. Je ne peux pas prendre des décisions sans qu'elle dise oui. Et elle ne peut pas prendre des décisions sans que je dise oui. Oui, la Bible dit je suis le chef du foyer, je suis le chef de la femme, c'est ce que dit la Bible. Mais et pourtant, je choisis dans l'amour de ne rien faire qui pourrait faire qu'elle soit délaissée, qu'elle soit mise sur le côté, parce que nous sommes une seule chair. Il est dit encore, on va lire dans Amos au chapitre 3 et au verset 3. Dieu a la puissance de transformer vos vies. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Pas tout est possible aux chrétiens. Il est dit, deux êtres marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? Deux personnes marchent-elles ensemble sans en avoir convenu? Est-ce qu'un couple peut marcher ensemble sans en avoir convenu? C'est impossible. Il faut toujours se mettre d'accord. Et vous savez, si vous êtes là aujourd'hui en couple, c'est parce que vous vous êtes mis d'accord d'être là. Et dans le couple, on se met d'accord pour toutes sortes de choses. S'il y a une réunion de prière dans votre église et que vous n'y allez pas en couple, c'est parce que vous vous êtes mis d'accord. Vous vous êtes dit, va-t-on aller à la réunion de prière ce soir? Et l'un a dit non, alors les deux ont suivi. Et vous n'allez pas, vous vous êtes mis d'accord. Vous avez peut-être dit, est-ce qu'on va donner notre dîme? Et vous vous êtes mis d'accord. Pour ne pas la donner ou pour la donner. Il y a une offrande spéciale et vous vous mettez d'accord en général. Est-ce qu'on va faire une offrande spéciale? Et vous vous mettez d'accord. Si vous allez à l'église ensemble, vous vous mettez d'accord. Il est impossible de ne pas se mettre en accord quelque part. Et vous pouvez aller dans Acte 5, il y a un exemple qu'on lit dans Acte chapitre 5 d'un couple qui s'est mis d'accord pour faire quelque chose. Acte 5 au verset 1. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. C'est catastrophique quand un couple prend des décisions et s'unit pour faire des choses qui sont contraires à Dieu. Quand le couple s'unit pour faire des choses qui vont l'éloigner de Dieu. Quand le mari a une offre d'emploi bien plus loin que son église et que la femme dit oui, allons-y, et qu'ils s'éloignent de leur église locale. C'est catastrophique. Notre fondation, c'est bâtir notre vie sur Christ. Et avec Annabelle, on a toujours bâti notre vie sur l'église aussi. À chaque fois que Dieu nous a amenés à déménager pour Enseigne-moi, j'ai pris une carte routière et avec un compas, j'ai fait un rond autour de l'église. Que Dieu nous disait, là où Dieu nous disait d'aller. Et j'ai dit, on n'ira pas plus loin que ce rond. Et toujours, Dieu a béni. Parce que si vous baptisez votre vie sur l'église locale, votre vie sera bénie. Mais si l'église est quelque chose en plus dans votre vie, eh bien vous êtes en train de dire, Dieu est quelque chose en plus dans ma vie. Voilà pourquoi toute votre vie n'est pas bénie. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Ils se sont mis d'accord avec le consentement de sa femme. Et ils ont apporté le reste aux pieds des apôtres. Beaucoup de gens se mettent d'accord pour donner le reste à Dieu. Ils donnent le reste de leur soirée. Ils donnent le reste de leur semaine. Ils donnent le reste de leur mois. Ils donnent le reste de leur salaire. Ils donnent le reste de leur temps. Voilà pourquoi ils n'ont jamais de temps de passer ensemble, à prier, à chercher Dieu, à passer du temps à l'adorer, à venir à l'église, à être enseigné, à chercher, à être enseigné par la parole de Dieu. C'est parce qu'ils donnent le reste. Ils donnent le reste à Dieu. Le couple choisit son degré de consécration. C'est vous qui le choisissez. Ce n'est ni les circonstances. Ce n'est pas vos enfants, même si vous en avez 30 ou 50. Ce n'est pas ça qui choisit le degré de votre consécration. C'est le couple qui choisit le degré de son amour pour Dieu. C'est une décision que nous prenons, soit d'ajouter Dieu dans notre vie, ou soit d'aimer Dieu en premier, plus que toute autre chose. Dans Jérémie au chapitre 2 et au verset 2, on voit un autre passage. Jérémie chapitre 2 et au verset 2. Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée quand tu me suivais au désert dans une terre stérile. Israël était consacré à l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui parle. Et il parle du premier amour. Et c'est sûr que le premier amour, il est plein d'émotions, il est plein d'excitation, mais il n'est pas parfait. Et parfois, les gens veulent revenir à leur premier amour, mais l'amour, normalement, est censé maturer, est censé devenir meilleur, est censé se fortifier. Et Dieu ici, il était comme triste, en train de se souvenir du premier amour. Et la Bible dit, dans une terre stérile, quand tu me suivais au désert. Beaucoup de gens, au départ, quand ils se marient, quand ils s'engagent ensemble, c'est un peu le désert. Ils ne sont pas bien assis financièrement, ils ne sont pas bien assis dans la vie, c'est un peu le désordre un peu partout. Et ils se mettent ensemble. Et pourtant, là, ils s'aiment, ils sont dans ce premier amour. Et après, ils ajoutent une maison, ils ajoutent des enfants. Et petit à petit, ça devient vraiment un grand désordre. Un grand désordre. Et pourtant, lorsque ils n'avaient pas forcément les finances, lorsque peut-être ils habitaient chez leurs parents, lorsqu'apparemment il n'y avait rien pour être des bonnes fondations dans leur vie, ils arrivaient à s'aimer. Ils arrivaient à bâtir une vie. Et ils ont bâti une vie ensemble. Alors qu'ils étaient dans une terre stérile. Le peuple de Dieu était dans le désert. Et au début, ils étaient fous de Dieu. Ils aimaient tellement Dieu. Ils étaient tellement heureux d'être sortis d'Égypte. Ils rendaient gloire à Dieu. Et les uns et les autres, ils se parlaient, ils rendaient gloire à Dieu. Mais le temps a passé. Et le temps a révélé les cœurs des gens. Le temps a montré réellement si les gens aimaient Dieu ou si les gens aimaient ce que Dieu pouvait leur apporter. Beaucoup de gens arrivent à l'église et viennent à l'église ou vont voir les pasteurs ou s'approchent de l'église et des temps de prière parce qu'ils rencontrent des problèmes. Et quand le problème est résolu, on ne les voit plus dans l'église. On ne les voit plus dans la prière. Et quand vous êtes attaqué par l'ennemi, voilà qu'on vous voit à nouveau dans toutes les prières. Priez pour moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ça arrive tellement de fois. Et ça démontre où est votre cœur. Où est votre cœur? Ce que vous faites de votre vie chaque jour démontre où est votre cœur. Nous voyons un peu plus loin dans le verset 13. Car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Beaucoup de couples, ils se creusent des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils mettent tout un tas de choses dans leur vie qui ne peuvent pas retenir la présence de Dieu, qui ne peuvent pas faire en sorte qu'ils iront plus loin proche de Dieu. Et beaucoup de couples, beaucoup de gens, et en fait, ce qu'ils font en tant que célibataires, c'est ce qui va souvent se passer, bien sûr, en tant que couple. Ce sera accéléré même parfois. Eh bien, ils rajoutent toutes sortes de choses. Et s'ils étudient un peu, si vous étudiez un peu, qu'est-ce que vous faites de vos journées, vous allez voir réellement où est votre priorité. Si chaque soir de votre vie, vous la passez en train de regarder la télévision, si chaque soir de votre vie, vous vous asseyez confortablement dans le canapé et vous discutez de choses et d'autres, si chaque soir de votre vie, vous vous invitez les uns et les autres, vous allez chez des amis, vous faites la fête, et même parfois vous allez chez des chrétiens, et on ne voit même pas que vous êtes chrétien puisque Dieu n'est pas du tout au centre, eh bien, ça montre qu'est-ce qui est dans votre cœur. Dieu dira, ils se sont creusés des citernes, des sources qui ne retiennent pas l'eau. C'est des gens qui bâtissent leur vie, qui ajoutent toutes sortes de choses dans leur vie, qui ne retiennent pas l'eau. Ils remplissent leur vie de toutes sortes de choses. Et après, ils se posent des questions quand les problèmes arrivent. Quand la tromperie arrive, quand l'adultère arrive. Quand toutes sortes de colères arrivent et se manifestent. Mais c'est parce que la fondation est mauvaise. C'est pas l'adultère en lui-même qui a causé ça. C'est pas la convoitise en elle-même. C'est parce que au départ, la fondation était mauvaise. Comme je vous l'ai dit, j'ai dit à Annabelle très clairement, j'ai dit, je vais marcher avec Dieu. Quoi que ce soit que Dieu me demandera de faire, je le ferai. Et c'est une décision qui est à prendre au départ. Et si elle n'est pas prise au départ, ça a amené toutes sortes de choses négatives. Mais il est toujours temps de prendre une bonne décision. Dieu dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et si vous croyez, mais tu peux pas me comprendre, tu sais pas ce que j'ai, tu connais pas mes enfants, tu connais pas mon couple, mais Dieu connaît. Dieu connaît, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si vous mettez votre confiance en Dieu, mais tout devient possible. Tout devient possible. Nous lisons encore un peu plus loin, au verset 17. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu au moment même où il te conduisait dans la bonne voie? Les gens, ils se marient où? Ils se marient à l'église en général, surtout lorsqu'ils sont chrétiens. Donc, ils prennent le choix l'un et l'autre devant Dieu, devant les hommes, de dire, nous allons vivre pour Dieu. Nous allons vivre pour Dieu. Mais Dieu dit ici, tu m'as abandonné au moment même où je te conduisais sur la bonne voie. Vous bâtissez votre vie sur Christ le jour du mariage. Mais après, à cause justement de toutes ces choses que vous mettez par-dessus, ça montre que, en fait, vous abandonnez Dieu alors qu'il voulait vous conduire, il voulait vous diriger. Mais les gens arrivent avec leur mentalité, tiens, je vais reproduire ce que mes parents ont reproduit, je vais reproduire ce que les magazines me disent, je vais reproduire ce que je vois chez des amis. Et Dieu dit non, reproduis ce que moi je fais, reproduis ce que moi je dis, reproduis mon amour. Parce que c'est avec mon amour que tu pourras réussir, c'est avec ma parole que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Il est dit au verset 18, et maintenant que fais-tu sur la route d'Égypte pour aller boire l'eau du Nil? Que fais-tu sur la route d'Assyrie pour aller boire l'eau du fleuve? Au verset 21, je t'avais planté comme une vigne excellente, d'un plant d'une qualité sûre. Comment as-tu changé à mon égard? La fondation, c'est le problème de beaucoup de couples. La fondation, les priorités. Qu'allons-nous faire de nos jours? Qu'allons-nous faire de nos soirées? Qu'allons-nous faire de notre argent? Qu'allons-nous faire de notre temps? Il n'y a pas besoin d'être pasteur pour aimer Dieu. Il n'y a pas besoin d'être enseignant à temps plein pour aimer Dieu. Il n'y a pas besoin d'être prophète ou apôtre pour faire de Dieu notre priorité. Il y a des pasteurs qui ne marchent pas du tout avec Dieu. Il y a des pasteurs dans leur vie personnelle. Il y a Dieu nulle part. Et pourtant, ils sont pasteurs. Ce n'est pas le fait d'être pasteur ou d'être à temps plein dans le ministère qui fait qu'on peut aimer Dieu plus que les autres. Absolument pas. Un jour, mon pasteur a dit, alors que j'étais en France, il a dit, moi aussi je suis chrétien. Ça a été une révélation pour moi. Parce que je le voyais toujours, c'est l'homme de Dieu. Non, nous sommes chrétiens aussi. Nous sommes des chrétiens tous, autant que nous sommes. Et nous avons la possibilité d'aimer Dieu plus que toute autre chose. C'est le premier des commandements. Aimer Dieu plus que toute autre chose. Et l'amour se manifeste. Si je dis aimer ma femme et que je l'empêche de travailler, je la cloître quelque part, je ne lui donne rien à manger, mais ça prouve que je ne l'aime pas. Et les gens disent aimer Dieu. Et il donne le reste à Dieu comme Ananias et Saphira. Oh, tu sais, ce mois-ci, on ne peut pas donner notre dîme. Ce mois-ci, on ne peut pas faire ceci, pas faire cela. Pourtant, je sais que j'ai ça dans mon cœur, mais on ne peut pas le faire. Et ils se nient ensemble pour le mal. C'est une catastrophe. C'est une tragédie quand le couple se nie pour faire le mal. Il y a une réunion de prière, comme je l'ai dit. Oh non, on va rester au lit. Et ils se nient pour faire le mal. Qu'est-ce que le mal? Le mal, ce n'est pas forcément mentir, ce n'est pas tuer, ce n'est pas que ça. Le mal, c'est ne pas faire la bonne chose. Ne pas faire les choses comme Dieu les veut. Et je suis béni de voir des couples qui sont vieux et qui s'aiment. Des couples qui se regardent l'un et l'autre pleins d'amour parce qu'ils ont marché avec Dieu. J'ai été tellement béni de voir Pasteur Wallace, Fernande qui était là et qui s'aiment. Je les regardais, c'était cet été, l'été dernier, il y avait une campagne ici d'évangélisation à Granby. Et ils repartaient main dans la main en se regardant plein d'amour. Et je suis béni quand je vois ça. Je suis béni quand je vois des gens comme ça, qui sont un peu plus âgés et qui continuent de s'aimer. C'est possible. Tout est possible. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, pour les malades. Si votre couple est malade, eh bien, c'est le message pour vous. Si votre couple est malade, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Tout devient possible. Je n'ai pas besoin de Dieu pour mes finances quand j'ai hérité de 10 millions de dollars. J'ai besoin de Dieu dans mes finances quand je suis dans le manque. Au verset 33 du même chapitre, « Comme tu es habile dans ta conduite pour rechercher l'amour. » Les gens sont tellement habiles, les célibataires parfois, tellement habiles pour rechercher l'amour. Tellement habiles. Ils essaient de manipuler parfois, ils essaient d'être au bon endroit, au bon moment, ils font toutes sortes de choses, ils vont dans des réunions spéciales, dans des repas spéciaux. Ils sont très habiles. Et de la même façon, nous devrions être habiles pour chercher Dieu. De la même façon, l'homme, qui est la tête normalement du foyer, devrait dire « Nous allons chercher Dieu. Jusqu'ici, je t'ai méprisé, jusqu'ici, je t'ai aimé avec mon attitude, et je me repens sincèrement, je te demande pardon, nous allons chercher Dieu ensemble. Nous allons chercher Dieu, nous allons mettre Dieu, non pas l'ajouter à notre programme, mais on va bâtir maintenant notre vie sur lui. On va bâtir notre vie sur l'église locale. On va bâtir notre vie sur Christ. Christ, la solution. » Dans 1 Corinthiens 13:3, je vais laisser la place après à Annabelle. 1 Corinthiens 13:3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Tellement de gens bâtissent leur vie sur la réussite. Et même dans l'église, on entend de plus en plus ce message. Comment réussir? Comment exceller? Comment réussir? Être dans l'excellence. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des héros. Nous sommes des conquérants. Et ça fait des gens, ils recherchent la réussite. Ils recherchent l'argent. Ils recherchent l'argent. Et ils s'éloignent de Dieu. Mais la parole de Dieu est très claire. Si tu réussis dans ta vie professionnelle et que ton couple, c'est la catastrophe, cela ne te sert de rien. C'est zéro. Ça ne sert à rien. Si en tant que couple, vous avez une bonne maison, vous avez des bons enfants, mais vous n'avez pas une bonne vie d'intimité avec Dieu, cela ne sert à rien. Mieux vaut-il ne avoir jamais existé? Parce que pourquoi nous avons été créés pour les œuvres de Dieu? On n'a pas été créés pour faire des enfants, on n'a pas été créés pour devenir propriétaire, on n'a pas été créés pour avoir de l'argent. Comme l'a dit Annabelle, ce sont des conséquences tout ça. Nous avons été créés pour les œuvres de Dieu. Et en tant que couple, je ne peux pas vivre mon couple en ayant une autre mentalité que de servir à la gloire de Dieu. Tout ce que je fais dans mon couple doit servir à la gloire de Dieu. Et dans les grandes décisions, Dieu est au centre. Si je dois déménager, Dieu est au centre. Si je dois prendre ce travail, Dieu est au centre. Si je dois faire cette chose-là avec mon argent, Dieu est au centre. Si je dois partir en week-end, Dieu est au centre. Si je dois partir en vacances, Dieu est au centre. Beaucoup de gens, dès que l'été arrive, on ne les voit plus à l'église. Et c'est un grand problème. Ça montre leur cœur. Ça montre leur cœur. Ils ont tout d'un coup plein d'argent et ça montre leur cœur. L'argent et les choses que Dieu nous donne ne devraient jamais nous changer. Jamais changer l'amour qu'on a pour lui. Dans une terre stérile, si tu as aimé Dieu, il t'est possible d'aimer Dieu toute ta vie.
Il y en a certains, vous vous dites, c'est bien beau tout ça, mais c'est vraiment très spirituel. Dieu, l'église, disciple, mort à soi, blablabla. Mais moi, j'ai un problème de couple et puis c'est pas ça qui réglera ça, c'est pas ça qui va faire mon mari va faire la vaisselle, c'est pas ça que ma femme va faire qu'elle va arrêter de mal me parler, c'est ça change rien. Si, vraiment, ça change tout. Reprenez, réécoutez ce message-là et comprenez que oui, ça va tout changer. C'est comme si je vous offrais une plante et je vous offre une plante, mais avant ça, j'ai arraché toutes les racines. Là, la plante, elle peut avoir l'air belle, je peux vous donner des principes, ça peut avoir l'air beau, ça peut avoir l'air de changer votre vie, mais là, au fur et à mesure, vous allez voir que ça... Boum, c'est quoi sa plante? Elle a un problème, sa plante? Oui, la plante n'avait pas de racine. La fleur ne vient pas toute seule. La fleur est là parce qu'il y a une graine, il y a une racine qui a été là. C'est quelque chose d'invisible. Et on le comprend dans la nature, on le comprend. Vous comprenez que si moi je pose une fleur par terre, il va rien se passer. Elle va juste faner, elle va sécher. Et si... On donne juste des principes aux gens. Et c'est des bons principes. C'est des choses qui sont vraies. C'est des choses qui sont entièrement vraies. Tout ce qu'on peut entendre sur le couple. Mais s'il n'y a pas cette racine, ça va juste faire des fleurs fanées, des fleurs séchées. Et puis vous allez être déçus. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune racine. Et c'est pour ça que c'est bon de revenir à la base. Et oui, un couple sert à la gloire de Dieu. C'est le seul et unique but. Et de là vont découler toutes les autres choses. Et on a besoin de Dieu pour ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir aimer notre prochain en couple ou même dans des relations en général? Comment ne pas chercher notre propre intérêt? C'est surnaturel de ne pas chercher notre propre intérêt. C'est surnaturel de ne pas vouloir gagner quelque chose dans une relation. C'est vraiment surnaturel de pouvoir donner sa vie, de pouvoir dire « Non, je te donne le meilleur. Moi, c'est pas ce qui me convient, mais pour toi, c'est bon. Ça va être bon pour ta croissance, ça va être bon pour ton édification. » Comment pouvez-vous le faire? Comment avez-vous même eu l'idée, l'espoir que ça puisse marcher avec vos propres forces? Ça va peut-être marcher une fois, deux fois, mais tu vas te fatiguer. Puis là, la troisième fois, ouais, bon voilà, ça suffit. Hein. Et parce que c'était juste un principe, une règle, une loi que tu t'étais fixée, mais il n'y a aucune racine, aucune vie, aucune conviction. Ça ne fait pas partie de toi. C'est comme, bon, on m'a dit de faire ça le matin quand je me lève. Je regarde mon mari, je lui dis, oh, tu es beau, homme fort. Vaillant, mon Seigneur. Mais il n'y a aucune racine en moi, je le pense pas. Je dis, je me dis ça, moi je me le dis. Mais si, moi je le pense forcément.
Alléluia.
Je le pense puisque j'ai médité sur Sarah qui appelait Abraham mon Seigneur et c'est devenu une racine en moi et c'est pour ça que je l'appelle mon Seigneur.
C'est bon.
C'est mal de mentir hein, quand on est devant. Je me repens. Mais je vais y travailler. Et puis un jour, ça va venir de mon cœur. Un jour. Mais c'est pour ça que on a besoin de... Et puis, il disait le couple qui s'unit pour le mal. Et si on n'est pas dans la parole, si on s'unit pas en Dieu, on sait même plus c'est quoi le mal, c'est quoi le bien. Bah, écoute, si on va à la réunion de prière, ça nous enlève une soirée dans la semaine. Et puis, tu sais, c'est important qu'on regarde un film super violent et super vulgaire parce que ça va nous rapprocher. Non, c'est parce qu'on pense, comme il l'a dit, on rajoute Dieu, on rajoute l'Église. Mais si on revoit toutes nos priorités, c'est non, ma priorité, c'est qu'on serve Dieu ensemble. Donc, qu'est-ce qui va être bon pour qu'on puisse servir Dieu ensemble? Est-ce que ça va être de passer, de regarder un film ensemble ou est-ce que ça va être d'aller s'unir ensemble dans la prière? Vous dites, ils sont vraiment spirituels, ils sont donc ben spirituels, ces Français. Mais alors que tu vas aller t'unir avec ta femme ou ton mari dans la prière, là, Dieu va te parler, Dieu va te dire, tu sais, ton mari en ce moment, il a besoin que tu passes du temps avec lui, il a besoin que tu prennes une soirée avec lui, il a besoin de ton attention, il y a des choses dont il veut te parler. Et comment est-ce que tu vas le savoir si tu as regardé un film avec lui? Tu vas regarder un film, c'est pas mal en soi, d'accord, de regarder un film, mais tu vas regarder un film, ta chair va être nourrie, c'est bon, voilà, vous avez regardé un film, on éteint la télé, on va se coucher. Mais là, alors que tu t'unis avec lui dans la prière, le Saint-Esprit va te parler à toi spécifiquement pour le besoin spécifique de ton mari. Tu vas savoir ce dont il a besoin spécifiquement. Et tu peux pas le savoir comme ça, tu sais, si tu cherches pas Dieu. Il y a que Dieu qui, le Saint-Esprit, celui qui nous dirige dans la vérité. Et dans la vérité aussi, pour faire la bonne chose au bon moment avec la bonne personne. Et le moment où ton mari a besoin de toi, je m'adresse aux femmes là particulièrement, le moment, il y a des moments où notre mari va avoir besoin de nous. Il a besoin de notre aide, il a besoin de notre support, il a besoin qu'on soit là pour lui. Et vous savez quoi, si vous prenez pas votre place, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui sera volontaire pour prendre votre place. Mais c'est dans la prière que vous allez pouvoir le savoir. Saint-Esprit va te dire, ton mari a besoin de toi là. Faut que tu sois proche de ton mari parce qu'il a besoin de ta présence. Il a vraiment besoin de toi. Mais si vous passez votre temps à faire des choses de la chair, pas forcément qui sont mal, mais qui ne construisent pas votre destinée spirituelle, tu le sauras pas et tu passeras à côté de ça. Puis un mois, deux mois, six mois vont passer, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tu as manqué ce moment-là important dans ta vie où il avait besoin de toi, il avait besoin de ton soutien, il avait besoin que tu puisses l'encourager parce qu'il passait par quelque chose de difficile. Et puis il y en a peut-être, votre mari ne parle pas parce que il y a des maris qui ne parlent pas. Le mien parle avec moi, peut-être pas beaucoup avec vous, comme vous l'avez remarqué, mais avec moi il parle. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il ne parlait pas quand je l'ai rencontré. On aurait pu passer une heure à ne pas parler. C'était formidable. Ça ne le dérangeait pas. Moi, ça me dérangeait. Mais il a appris à s'exprimer, à mettre des mots sur des... Non, c'est pas vrai, j'exagère. Et donc... Quelquefois, vos maris ne vont pas vous parler, vont pas vous dire ce qu'ils ressentent, vont pas vous dire qu'ils sont en train de vivre un moment profond de découragement. Mais le Saint-Esprit va te le dire. Et le Saint-Esprit va te dire, ton mari a besoin que tu l'encourages maintenant. Ton mari a besoin que tu lui rappelles qui il est en Christ, qui il est en moi, quelles sont les promesses, quelle est la vision pour sa vie. Et si toi, tu le fais pas, qui va le faire? Honnêtement, qui va le faire? C'est notre rôle à nous, en tant qu'épouse, de faire ça. Et puis, c'est pareil pour votre mari. Vous vous plaignez, oui, mais mon mari, il fait pas attention à moi, il fait pas la bonne chose au bon moment. Tu sais, on a écouté des messages, comment faire plaisir à sa femme. Il a rien fait! Il a rien fait! Si, il m'a offert une paire de fleurs, vous voyez qu'il m'offre souvent des fleurs. un bouquet de fleurs. Il m'a offert un bouquet de fleurs. Il m'a offert des fleurs jaunes. Je déteste le jaune. Mais là, vous voyez, si toi, tu prends aussi ta responsabilité, bah, tu sais, chérie, ce soir, ce serait peut-être bien qu'on puisse méditer la parole ensemble. Vous dites, ouais, c'est pas romantique, c'est pas glamour, c'est même pas relax. Mais, en méditant la parole ensemble, en ayant ce lien d'amour, l'amour, c'est le maillon de la perfection, c'est le lien de la perfection. C'est ça qui va faire que ton mari, qui ne te comprenait pas, va te comprendre d'une manière surnaturelle, parce que lui aussi, le Saint-Esprit, va le conduire dans la vérité. Ta femme, ça, elle l'aime pas. Faut que t'arrêtes de le faire. Ça vous sépare. Ça met un fossé entre vous. Ça la blesse. Ça l'humilie. Arrête de faire ça. Le Saint-Esprit va lui dire, ton mari qui craint Dieu va dire, ok, j'avais jamais compris. Je pensais qu'elle trouvait ça drôle que je la traite de grosse devant tout le monde. Non, elle trouve pas ça drôle du tout. D'accord? Je peux le dire? Au début de notre mariage, Jérémy, il était... Mais maintenant, vous allez dire, il n'a pas changé, mais ça me fait rire. Mais vous avez remarqué, nous, on se fait souvent des blagues et tout ça. C'est pour ça qu'on peut même pas... D'un commun accord, on s'est mis d'accord sur les blagues humiliantes. Comment on peut pas... C'était impossible pour nous de faire un message. Voilà les 10 principes pour un mariage heureux. Parce que nous, on est comme ça. Mais si on prend Michael et Yveline, c'est un couple complètement différent. Il détesterait m'avoir pour femme. Allons jusqu'au bout. Parce que je ne lui correspond pas. Et c'est pour ça, il y a des choses qui vont faire plaisir à ta femme. C'est formidable. Mais moi, ça me fera absolument pas plaisir. Ça me fera ni chaud ni froid. Et il passera à côté du but, comment me faire plaisir. Parce qu'il aura voulu me faire plaisir. Comme Pasteur Wallace aurait pu faire plaisir à Fernande. Mais moi, ça me touchera pas du tout. Ben, peut-être, mais si tu voulais m'écrire une lettre d'amour comme Pasteur Wallace a fait, peut-être que ça me toucherait. Je dis ça, mais...
Tu t'égares. Hein.
C'est que voilà, on a besoin du Saint-Esprit pour nous dire quoi faire au bon moment. Vraiment, et vous vous plaignez de votre mari, mesdames, mais passez du temps dans la prière avec lui. Passez du temps dans la prière avec lui et c'est là que vous allez connecter ensemble sur les vraies choses et sur les choses aussi peut-être mineures. Mais c'est ces choses mineures qui viennent vous gâcher votre quotidien. Le truc qui fait, qui vous énerve, que quand, je sais pas moi, il... Qu'est-ce qui est énervant?
Je fais rien de mal, donc...
Mets-toi dans la peau de Michael. Non, mais il y a des choses qui énervent vraiment, genre, je sais pas moi, quelqu'un qui grince des dents, je sais pas pourquoi, et puis ce genre de truc, ça commence ta journée, oh, arrête de faire ça! Mais là, dans la prière, ça semble vraiment stupide quasiment, mais Dieu prend soin des détails, soit Dieu va te dire, écoute, tu vas apprendre à vivre avec, c'est pas grave, et tu vas avoir la grâce pour le supporter, soit ton mari, il va avoir la révélation, c'est quelque chose qui est pas utile dans sa vie, et donc il va arrêter de le faire, mais sinon ce sont juste des principes qui vont s'ajouter à votre vie, en plus de tout ce qui s'ajoute à votre vie, ça va être fatigant, ça va être un poids, parce que ça va vous rappeler, oh, j'ai oublié de dire à mon mari ce matin que je l'aimais, etc., ça va me porter malheur, ça va, c'est une mauvaise augure. Non, pas du tout. Notre destinée est dans la parole. Et vous ne pouvez rien attendre de votre mari, rien attendre de votre femme, si vous ne vous attendez pas à Dieu. On a besoin de Dieu. La Bible dit qu'on a besoin du Dieu de persévérance et du Dieu de la consolation pour pouvoir avoir les sentiments selon Jésus-Christ. Et pour comment avoir les sentiments de Jésus en nous? Comment aimer notre conjointe de cette manière surnaturelle? Comment voir ses faiblesses et dire... Je vais t'aider. Je ne vais pas chercher mon intérêt, je vais chercher ton intérêt. Oui, on va aller à cette réunion-là. Moi, je le connais, mais toi, tu le connais pas. Je vais prendre mon samedi avec toi, ma femme, parce que je sais que t'en as besoin, je sais que c'est important pour toi. La Bible dit de se réjouir avec celui qui se réjouit, de pleurer avec celui qui pleure. Comment est-ce que tu peux avoir à cœur la situation de ton mari ou de ta femme si tu n'as pas les sentiments de Jésus, si tu ne t'es pas confié pleinement en Dieu, le Dieu de la persévérance, le Dieu de la consolation? Et quand un coup va mal depuis des années, j'ai conscience que on a besoin du Dieu de la persévérance et le Dieu de la consolation pour nous-mêmes. Alors que le Dieu de la persévérance, alors que le Dieu de la consolation te touche, tu as commencé à être rempli non plus d'amertume, non plus de colère, non plus de vengeance, mais tu es rempli de compassion. Tu vois l'autre avec les yeux de Jésus. Tu vois l'autre comme Jésus le voit. Et comme je l'ai dit il y a quelques semaines, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça, c'est la clé. Comment peux-tu voir en toi et en l'autre Christ l'espérance de la gloire si ta vie n'est pas fondée en Dieu, si ta vie n'est pas fondée en lui, si ta vie est fondée sur des principes d'aller au cinéma une fois par semaine, de dire à ton mari mon Seigneur, de lui dire 3 compliments à 2 heures d'intervalle, etc., que pour une parole méchante c'est 3 paroles gentilles, comment est-ce que tu vas le faire? Comment est-ce que ça va porter du fruit? Comment est-ce que toute ta vie tu vas vivre comme ça? C'est fatigant, c'est contraignant de faire ça. Or, si tu es basé sur Dieu, si ta vie est fondée en Dieu, si c'est ta racine, ce sera normal, ce sera naturel, ce sera ta vraie nature, ta nature divine qui va juste exploser, qui va exploser sur ton couple, qui va se répandre sur ta famille, qui va se répandre sur tes enfants, et ce ne sera pas des principes. Mais malgré toi, tu vas appliquer ces principes. Malgré toi, tu vas faire ces choses tout à fait concrètes, ces choses pratiques, de dire à ta femme « t'es belle », de dire à ton mari « merci », de reconnaître ce qu'il a fait, de reconnaître un sacrifice qu'il a fait pour toi. Tu vas avoir cette intelligence divine de le dire. Tes yeux vont s'illuminer sur ce que ton mari ou ce que ta femme a fait, et pas sur ce qu'il n'a pas fait, comment il l'a mal fait, qu'il a rangé le garage, qu'il l'a pas rangé comme toi tu le voulais. Non, tu vas voir ce qu'il a fait pour toi. Mais comment? Parce que tu vois en lui, Christ, l'espérance de la gloire. Et comment tu le vois? Parce que tu te laisses renouveler par Dieu. Ton intelligence est renouvelée. Tu ne penses pas comme le monde, tu penses comme Jésus pense. Tu vois ce qui est bon chez lui et tu aspires, tu fais ressortir le meilleur de lui-même. Mais comment le faire si ce n'est en Christ? C'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Sans Christ, ça va, tu vas te fatiguer. Tu vas peut-être le faire 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est comme quand tu veux faire un régime. Sérieusement, si tu veux faire un régime, juste pour faire un régime, tu vas te priver de manger pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, là. Oh. Tu pars, tu payes la traite là, et là d'un seul coup tu manges tout ce que tu peux parce qu'il n'y avait aucune conviction, aucune racine, c'était juste que t'essayais quelque chose. Tu te prives, et t'es dans ton couple et tu te prives de ne pas lui dire quelque chose de méchant, tu te prives de ne pas être qui tu penses être, mais c'est pas la vraie personne que tu es. Tu te prives de ça, tu te contiens. Non, arrête de te contenir parce que c'est... Arrête de te contenir, pas dans le sens sois méchant, fais tout ce que tu veux, mais recherche la vraie personne que tu es en Christ. Découvre qui tu es vraiment en Christ, ta vraie nature en Christ, et tes actions vont être le reflet de qui tu es vraiment. Mais ce sera jamais l'inverse, jamais l'inverse. C'est pour ça, revenez à la base, revenez à cette fondation et ne laissez pas rien se mettre entre vous et Dieu, rien entre vous et votre couple. Ne donnez pas le reste comme Anania et Saphira. Vraiment, donnez-lui tout parce qu'il va le toucher, il va le bénir, il va transformer votre couple, il va vous consoler. Et dans la persévérance et la consolation, vous allez voir Dieu agir dans votre vie.
Dans Romains chapitre 12 au verset 11, qui dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur ». Un autre passage dans Romains 12, 9, « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien ». Et si dans votre cœur, le Saint-Esprit vous parle par rapport à votre couple, ben la Bible nous dit très clairement « Ayez du zèle et non de la paresse ». Il y a des gens qui se permettent de laisser des choses dans leur couple demeurer comme ça pendant des mois et des années. Et il ne faut jamais se permettre de vivre avec du poison. Jamais se permettre de vivre avec des choses qui sont mauvaises. La Bible dit « Soyez fervents d'esprit ». Et puisqu'elle a parlé aux femmes, je parle aux hommes. Les hommes doivent normalement, comme on l'a vu, être la tête. Pas être des chiffres molles, des femmelettes.
des hommes qui prennent aucune décision, des hommes qui sont là et il y a tout un tas de problèmes qui arrivent dans leur vie et bon, ils laissent comme ça ou alors ils se mettent en colère. Non, le vrai homme, la Bible dit, soyez des hommes aux hommes. Le vrai homme en Jésus-Christ, c'est celui qui sait se repentir auprès de sa femme. C'est celui qui sait se repentir auprès de Dieu. C'est celui qui sait prendre les bonnes décisions pour son couple. C'est le vrai homme, selon Dieu, c'est celui qui va toujours pousser sa femme et lui-même vers Dieu. Toujours. Toujours. C'est toujours celui qui va dire, oh, on a des priorités qui sont mauvaises, il faut changer ça. On va parler, on va passer du temps à parler ensemble. On va parler de la parole de Dieu. On va parler de tel ou tel sujet. On va regarder une prédication ensemble. On va lire un livre ensemble et on va s'édifier. C'est le vrai homme, selon la parole de Dieu. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et des gens, ils n'ont pas gardé leur cœur par rapport à leur épouse ou par rapport à leur époux. Et la Bible nous dit de garder son cœur. Ça veut dire, je ne dois jamais me permettre de penser du mal. Je ne dois jamais me permettre d'imaginer me séparer, d'imaginer dormir ailleurs, d'imaginer me mettre en colère. Je ne dois jamais imaginer le mal sur mon conjoint, sur mon épouse, sur mon mari. Parce que la Bible montre très clairement que c'est tu ouvres des portes. À partir du moment où tu imagines le mal, tu ouvres une porte au royaume de diable pour agir dans ta vie. Mais la Bible dit de penser aux choses d'en haut. À partir du moment où tu penses aux choses d'en haut, tu ouvres une large porte au royaume de Dieu dans ta vie. Et il y a 1 Thessaloniciens 5, 23 qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et le verset suivant dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il y a des choses dans notre couple, on dit je ne peux pas réussir, j'ai déjà essayé. Il a déjà essayé, ça ne marche pas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a besoin de Dieu, c'est lui qui le fera. Il y a des choses, tu as dans ta vie, il y a des maris par exemple, ils vont sur des sites mauvais, ils regardent des femmes, etc. Ils ont de la convoitise en eux et ils ne réussissent pas. La Bible dit, c'est lui qui le fera. Il y a des femmes, elles ont toutes sortes de problèmes, c'est la colère, c'est l'animosité, et elles sont pleines de passion et qui les empêchent d'aimer vraiment Dieu et d'aimer leur mari. La Bible dit, c'est lui qui le fera. Mais à partir du moment où réellement tu t'attaches à Dieu, où réellement tu gardes ton cœur et tu dis, non, il est impossible que je me sépare. Je n'y pense jamais même. Je n'y pense même pas. Non, moi, ma femme et moi, nous servirons Dieu. Amen. Il y a quelque chose qu'on a dit à Eden, qu'on a appris à Eden. On lui a dit, papa et maman sont toujours d'accord. C'est quelque chose qu'on doit dire à nos enfants. S'il y a un désaccord, on en parle à côté et sur la parole de Dieu. Une autre chose que je dis à Eden, c'est que papa, c'est le chef du foyer, mais maman, c'est la chèvre de la maison. Elle disait, c'est la chèvre de la maison. Les décisions du foyer, la Bible montre très clairement que l'homme aura le dernier mot. Mais dans la maison, Annabelle fait ce qu'elle veut. Les meubles, tout ce qu'elle veut, quoique on n'a pas une maison très très... on n'est pas chez nous, mais elle fait ce qu'elle veut dans la maison. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours uni, d'un commun accord. Même si on laisse la décision, on choisit d'un commun accord. Et ce qui est impossible à l'homme, la Bible dit, est possible à Dieu. C'est lui qui le fera. Si on est accepté aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, si Dieu nous regarde malgré tous nos péchés, c'est parce qu'il nous regarde au travers de Jésus-Christ. Et comme Annabelle l'a dit, on peut regarder notre conjoint, notre mari, notre épouse. On peut regarder ses défauts, ils sont cachés en Christ. Le regarder et la regarder en Jésus-Christ. La Bible dit, c'est lui qui le fera. C'est lui seul qui le fera. Et la Bible dit aussi, si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu a établi le couple. Le couple vient de lui, ce n'est pas la société ni le diable qui a créé ça. C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé ça et c'est lui qui le fera. Je vais terminer juste en priant. Père, je te remercie parce que ta parole est puissante. Elle est une épée qui vient, Seigneur, transformer les mauvais raisonnements, qui vient terrasser les pensées mauvaises et humaines, charnelles et même parfois sataniques. Mais ta parole est puissante. Père, quelles que soient les situations et les couples qui vivent qui vivent toutes sortes de difficultés et des problèmes particuliers, tu les connais. Et Seigneur, c'est toi qui le feras. Si réellement tu es le cœur de leur couple, si tu deviens la fondation de leur couple, tu le feras. Tu le feras. Et je te remercie pour les décisions qui sont prises, pour les couples qui sont transformés par ta gloire. Et Seigneur, je sais que tu le feras. Je te remercie parce que tu les établis afin qu'ils portent du fruit. Tu établis des couples glorieux qui marchent dans ta gloire et qui te servent dans l'amour, dans la bonté, dans la générosité, dans la patience, dans la gloire. C'est toi qui le feras. Merci parce que lorsque nous prenons les bonnes décisions et nos responsabilités, tu t'occupes de ce que nous ne pouvons pas faire. Nous te glorifions, Père, et nous te remercions. Nous voulons te suivre et notre couple est béni au nom de Jésus-Christ.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.